les jardinières.
Profitez de rester au chaud encore une heure, le temps d'écouter nos conseils jardinage avant d'enfiler vos bottes et de vous rendre au jardin. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Pour répondre à vos questions jardinage et parler de bulbes, nous sommes en compagnie de Timothée Grisel. Bonjour Timothée.
Bonjour tout le monde, bonjour Mylène.
Timothée Grisel, vous êtes paysagiste et propriétaire de Timothée Grisel Paysage aux Verrières. Merci d'être avec nous ce matin.
Avec grand plaisir.
Et c'est parti pour une heure de jardinage, soyez les bienvenus.
7h, 8h, les jardinières.
L'automne est bien en place avec ses couleurs et son lot de feuilles mortes. Il est temps de cueillir les coings et les pommes, Timothée. Mais est-ce que vous avez d'autres tâches à proposer à nos jardiniers amateurs et jardinières amatrices ?
Alors, bon, ben, comme c'est la fin de saison, il faut vérifier ces massifs de vivaces, couper tout ce qui est en train de flétrir et de ne plus être très joli. Je trouve que c'est le moment de prolonger ces massifs au plus long pour garder l'été le plus longtemps dans son jardin. Après, c'est sûr, il y a toujours les dernières récoltes de légumes. Si vous avez encore la chance d'avoir des tomates dans votre jardin, c'est le moment de récolter les dernières, même les vertes, et puis de les stocker dans une pièce un peu à température ambiante pour finir le mûrissement. Mettre vos poivrons à la cave, ils se gardent très bien, même l'hiver. Donc voilà, les derniers, puis après, ben, prendre soin de ces légumes d'hiver, la doucette, de semis. Enfin voilà, il y a quand même toujours des petits semis à faire pour pérenniser le plus longtemps ces récoltes de légumes.
Merci Timothée. En seconde partie d'émission, vous répondrez aux questions jardinage de nos auditeurs. Et vous avez toujours trois possibilités pour nous joindre. La première, c'est par téléphone au 0900 70 20 20. Et la chance de poser votre question en direct à notre spécialiste. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site et joindre une photo à votre question. C'est sous l'onglet émission questions aux jardinières. Ou alors vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Place à la musique et puis nous parlerons de bulbes. Et Timothée, vous nous donnerez des conseils pour réussir leur plantation et avoir enfin de belles fleurs au printemps.
7h, 8h, les jardinières.
Pour voir fleurir votre jardin dès les premiers beaux jours, les bulbes sont un excellent choix. Leur plantation se réalise maintenant. Pour devenir un expert ou une experte en bulbes, nous allons suivre les conseils de Timothée Grisel, paysagiste aux Verrières. Tulipes, jonquilles ou encore crocus, le choix est vaste. Alors Timothée, quand on arrive dans un magasin, quels sont les critères pour choisir des bulbes de qualité ?
Alors, je dirais qu'il faut vraiment retourner les sachets quand vous avez fait votre choix pour la variété qui vous plaît, pour voir comment sont les bulbes à l'arrière. Il faut éviter ceux qui ont de la pourriture, il faut éviter ceux qui sont un peu tout mous, il faut regarder vraiment qu'ils aient une belle couleur, qu'ils soient bien blanc-jaune, comme une belle couleur de bulbe. Et puis il faut aussi éviter ceux qui ont des longs germes, qui auraient déjà trop démarré. Par contre, le développement des racines, alors ça c'est plutôt un signe positif, ça veut dire qu'ils vont rapidement s'implanter dans votre jardin. Donc ça, c'est pas un critère négatif, mais vraiment, il faut vraiment surtout pas que... Je dirais le facteur le plus dramatique, c'est la pourriture, la moisissure qu'on peut trouver sur le bulbe. Après, il y a aussi la qualité. Enfin voilà, des fois, plus les prix sont hauts, plus les bulbes sont gros. Et puis ça peut aussi être un excellent gage de qualité pour une belle floraison. Donc ne choisissez pas forcément les plus petits gringalets que vous voyez parce qu'ils sont les moins chers.
Et puis après avoir choisi ces bulbes, comment est-ce qu'on les conserve justement pour pas qu'ils pourrissent, ceux qui n'ont pas été plantés immédiatement après l'achat ?
Alors, surtout pas à la chaleur. Le mieux, c'est au frais et à l'obscurité. Donc, ils vont très bien dans une cave, un garage, un cabanon de jardin. Je dirais, il faut que la température reste stable. Après, ils se gardent très bien à l'extérieur. Si vous avez un derrière de maison ou un coin du jardin ombragé, il faut surtout pas qu'il y ait la lumière. Vous pouvez mettre un sac de jus dessus, ça va très bien. Après, attention, si vous les mettez dans un endroit un peu trop humide, ils vont commencer leur pousse, donc gardez-les quand même au sec après, jusqu'à la plantation.
Et vous avez dit au frais, au frigo, c'est trop frais ?
Non, le frigo, alors souvent, c'est ce que je peux conseiller à mes clients, notamment pour les rhizomes d'iris, si on qu'on en reçoit quand on en commande un peu tôt. Le frigo, le bac à légumes est un excellent, un excellent coin pour garder ses bulbes. D'ailleurs, les producteurs de bulbes, ils les gardent dans des énormes frigos avant la livraison.
Bon, faut faire attention à ne pas les confondre avec des oignons ensuite. On va parler un peu de la plantation de ces bulbes. Timothée, comment est-ce qu'on s'y prend quand on a ce bulbe qui ressemble justement à un oignon ?
Alors, bon, les règles de base, c'est vous prenez votre bulbe et puis la hauteur de votre bulbe, vous mettez 2 à 3 fois sa hauteur en terre dessus. Ça, c'est la bonne profondeur pour planter un bulbe. Bien sûr, il faut mettre le germe en haut. J'ai déjà vu des tulipes qu'on poussait à l'envers, donc il faut vraiment faire attention que le germe soit bien contre le haut. Il faut aussi que la base soit bien posée sur le sol parce que il faut éviter, pour éviter au maximum la formation de moisissures. Et puis après, ben voilà, il y a aussi en lune descendante, ça aide si on a la possibilité de les planter en lune descendante. Ils ont tendance à mieux rester à la bonne profondeur dans le sol. Après, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut vraiment faire attention, ben, c'est votre emplacement. En automne, les vivaces sont quand même un petit peu en train de réduire, ou alors on a... on voit moins bien la perspective de son jardin et il faut pas planter vos bulbes à un endroit où il y aura des plantes trop exubérantes au printemps parce que sinon ils vont pas réussir à bien se régénérer. Et donc là, c'est vraiment important de bien définir vos emplacements et puis aussi savoir si vous avez des bulbes à floraison précoce, à floraison tardive, pour mieux les placer dans votre jardin. Et puis après, ben, il faut aussi regarder par rapport aux couleurs, parce que suivant les vivaces que vous avez, enfin, il y a peut-être, il faut que ça soit cohérent avec ce qui va fleurir au printemps. Et puis, ben, il faut vraiment avoir conscience, même si vous en plantez dans votre gazon, comme ça, il faut aussi penser au cheminement dans votre jardin pour ne pas vous embêter après avec la tondeuse en vous disant mince, je les ai mis droit au mauvais endroit, parce qu'il faut quand même penser qu'ils ont souvent besoin jusqu'au mois de juin pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir refleurir longtemps sur la durée. Donc réfléchissez bien à votre jardin et l'utilisation du jardin que vous faites en été pour mettre vos bulbes au bon endroit. Et puis après, ben, c'est clair que moi, je trouve que les belles plantations sont souvent celles où il y a ben, quelques taches de tulipes, un peu de jonquilles, il y a une tulipe botanique aussi, quelques ail décoratifs. Et puis, j'aime bien ajouter des petits bulbes qui se multiplient tout seuls pour créer à l'avenir un bel effet. Puis pour les gazons encore, ben c'est clair que si vous voulez un bel effet directement, il faut lancer vos bulbes au sol et puis où ils tombent, et ben c'est là que vous les plantez et vous aurez un effet naturel directement.
Et puis Timothée, si on veut justement un beau jardin bien fleuri, jusqu'à quand est-ce qu'on peut planter nos bulbes de printemps ?
Alors bon, moi je me suis fixé que je ne dépassais pas Noël, parce qu'on peut les planter, tant que ça gèle pas, on peut les planter encore assez tardivement, on peut encore les planter en janvier. Après, il faut penser que les bulbes, si on les plante trop tard, ben, ils vont fleurir aussi un peu plus tard. Donc plus ils sont plantés tôt, mieux ils vont s'enraciner, mieux ils vont se préparer, et puis plus vite ils vont démarrer quand les conditions seront bonnes au printemps. Mais bien sûr qu'on ne peut pas tous les planter, surtout si on en a beaucoup à planter, on ne peut pas tous les planter la première quinzaine d'octobre. Donc on peut aller sans autre de septembre à Noël sans avoir crainte qu'ils fleurissent mal.
7h, 8h, les jardinières.
C'est le moment de planter vos bulbes pour avoir des fleurs de jonquille ou des tulipes au printemps. Et pour réussir votre plantation, rien de mieux que les conseils d'un spécialiste. Alors Timothée, on a parlé plantation il y a quelques minutes. Quelles sont les erreurs les plus courantes quand on plante des bulbes ? Vous avez dit tout à l'heure déjà, il faut le mettre dans le bon sens.
Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment le gros point, ne pas planter vos bulbes à l'envers. Ils vont avoir de la peine à pousser, puis surtout à se régénérer au fil du temps. Et puis après, ben, une erreur moins grave, c'est pas assez profond. Après, des fois, on a tendance à les revoir un peu trop en surface et puis à les casser quand on manipule nos massifs. Et puis, bien sûr, ben, ne pas casser la pousse ou le germe à la pointe, parce que ça pourrait compromettre fortement la pousse du bulbe.
Puis, est-ce que certains bulbes sont plus faciles à cultiver que d'autres ?
Alors, c'est sûr que plus les fleurs sont sophistiquées, moins elles vont durer dans le temps. Donc, à part pour les jonquilles qui restent un basique très simple à cultiver. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui est facile à cultiver, il faut partir plus sur des fleurs simples. Et puis, ou sur des bulbes botaniques. Ça, c'est ceux qui vont le mieux et puis avec qui on a le plus de succès parce qu'en plus, ils se multiplient. Par contre, alors, bon, là, on dévie un peu sur l'intérieur, mais n'essayez pas de vouloir régénérer des amaryllis, parce qu'alors là, c'est la croix et la bannière. Mais sinon, je dirais que ça reste des plantes faciles à cultiver.
Vous avez dit fleurs simples et fleurs botaniques. Peut-être quelques exemples.
Alors bon, alors, dans les botaniques, alors, il y a plein de petites tulipes qui sont comme les tulipes sylvestres, les tulipes tarda, qui sont des botaniques. Après, ben, c'est clair que dans les jonquilles, il y a, ben, comme celles qu'on voit sur les hauteurs, à plus de 1000 mètres d'altitude. Il y a les narcisses aussi, qui sont des botaniques. Enfin, donc voilà, il y a quand même pléthore. Il ne faut pas oublier que ça reste pour la plupart des bulbes assez originels. Il y a, je dirais, dans les tulipes, là, plus on va dans une fleur particulière et plus le bulbe a été, si on peut dire, trafiqué, la variété a été trafiquée, surtout notamment les fleurs doubles. Alors eux, ils n'ont plus d'étamines et de pistils, ils n'ont plus de système reproducteur car ils ont été transformés en pétales.
Et puis Timothée, c'est quoi la durée de vie d'un bulbe? On le plante une fois, c'est pour toujours?
Alors justement, les fleurs très sophistiquées, ben, on va dire, ça peut être difficilement au-delà de 5 ans. Après, plus la fleur est simple, genre si c'est une tulipe rouge ou jaune, là, alors, j'ai envie de dire, c'est ad aeternam, si les conditions sont bonnes. Et puis, c'est clair, alors après, si on part dans des petits bulbes botaniques comme les érantes, les scies ou les chionodoxa, alors là, on est clairement dans quelque chose qui va se multiplier. Et puis, vous en aurez partout, comme les muscaries. Les gens parlent beaucoup de leurs muscaries qu'ils ont partout dans leur devant de maison.
Ces fleurs violettes avec des boulettes, c'est
voilà,
ça,
exactement, c'est ça. Les petites boules bleues. Alors ça, vous en avez partout si vous en mettez dans votre jardin.
Les jardinières.
Ce matin, chez Les Jardinières, nous sommes en compagnie de Timothée Grisel, paysagiste et propriétaire de Timothée Grisel Paysages aux Verrières. Ce matin, on s'intéresse aux plantes à bulbes et nous allons aussi répondre aux questions jardinage de nos auditeurs.
Et pour poser vos questions, vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 et parler en direct avec Timothée. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question au 939. Et puis un formulaire est aussi à votre disposition avec la possibilité de joindre une photo à votre question. Ça se passe sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Alors Timothée, on a parlé de la plantation d'un bulbe en pleine terre. Vous avez même conseillé qu'on pouvait les lancer pour les planter où on avait envie de les mettre. Mais est-ce qu'il y a des types de bulbes à privilégier pour les petits espaces? Je pense par exemple au pot.
Alors, c'est sûr, il y a des bulbes. Le mieux que je vous conseille, c'est de regarder derrière vos emballages si c'est écrit « bulbe de rocaille ». Donc ça va bien en pot. Ou alors les petits bulbes comme les crocus, les muscaries, les petits iris de printemps et certaines tulipes botaniques. Je dirais que le facteur limitant, en fait, c'est le sec. Donc tant qu'il y a de l'eau et de la nourriture, tout va bien et c'est simple. Donc les bulbes, on peut mettre n'importe quoi en pot tant qu'il y a de l'eau. Et puis surtout, je dirais, au mois de mars, là, c'est la période où il faut un peu veiller parce qu'ils sont en pleine croissance. Mais pas de contre-indication à mettre des bulbes en pot.
Et justement, vous parliez d'eau. Est-ce que notre bulbe a besoin justement d'eau durant l'hiver?
Ah bah absolument. Hein. Sans eau, rien ne pousse. Hein. On en a la preuve avec les déserts. Mais c'est clair qu'en hiver, ben, comme il pleut en suffisant chez nous, on n'a pas besoin de s'en occuper à part s'ils sont pas abrités. Par contre, alors c'est vrai que je conseille à tous les auditeurs au mois de mars, fin février, mars, si on a des belles périodes, ben là, veillez à vérifier que la terre est encore assez humide parce que c'est la pleine croissance pour eux. Et puis, s'ils n'ont pas d'eau, ils ont de la peine à se régénérer, surtout aussi au mois d'avril. Quoi. C'est des périodes qui sont sensibles pour eux.
D'où l'importance de se souvenir où on les a plantés.
Absolument.
alors, c'est beau, un bulbe, ça donne envie, mais est-ce qu'ils ont des ennemis et comment les prévenir et les traiter, ces ennemis?
Alors, c'est sûr que le gros problème avec les bulbes, c'est les moisissures, parce que s'ils auraient été mal stockés. Donc, s'il y a un petit peu de moisissures, ben, plantez-les rapidement. Je dirais qu'il n'y a pas trop de risque à ce que ça se péjore si la terre, après, vient bien contre. Ça va faire crever les moisissures, mais c'est clair que s'ils sont trop pourris, moi je dis, alors là, ça vaut même pas la peine de les planter. Après, ben, c'est clair que c'est l'avantage de l'hiver, il y a peu de problèmes avec les bulbes, ça reste des plantes résistantes. Dans une période où il y a peu de ravageurs, je dirais que le gros ravageur, pour ceux qui habitent un peu en altitude, c'est, ou même pas forcément en altitude, mais c'est les campagnols. Et eux, alors, ils sont friands de tulipes et consorts. Je dirais qu'alors, si vous avez des campagnols dans votre jardin, je vous conseillerais de planter des ail décoratifs, des jonquilles, des fritillaires et les petits bulbes botaniques qui, eux, sont assez, se multiplient assez bien pour ne pas être décimés par les campagnols. C'est des bulbes que, notamment l'ail et les jonquilles, qu'ils n'aiment pas trop et qu'ils laissent tranquilles. Donc, c'est un peu l'unique moyen d'avoir des bulbes de printemps si vous avez des campagnols dans votre jardin.
Et puis pour terminer sur les bulbes, Timothée, vous qui êtes un grand amateur justement de bulbes, de quoi serait composé votre massif de bulbes parfait ?
Ah, alors moi j'aime les tapis de fleurs qui se multiplient par eux-mêmes, donc c'est clair que pour moi un beau massif de fleurs il en a, parce que du coup ça crée une base de fleurs. Après, par exemple comme les petites errantes, là, les petites boules jaunes qu'on voit au mois de février, ou les scies. Après, ben, j'aime beaucoup ajouter des lys dedans, parce que je trouve qu'ils fleurissent un peu plus tard, et puis ça donne quelque chose de somptueux au milieu des vivaces. J'aime beaucoup les ailes décoratifs, les perce-neige doubles, et puis une tulipe que j'adore particulièrement, c'est la tulipe Portland, qui est somptueuse au niveau des reflets et des couleurs. Donc voilà, j'aime bien en mettre par-ci par-là dans mes massifs.
Et quelle couleur cette tulipe Portland ?
Ah, elle est un peu violette au cœur, et puis elle finit sur les roses à l'extrémité avec des pétales un peu pointus, et en plus elle tient très très bien dans la durée, dans le temps. C'est vraiment une tulipe que je peux conseiller à tout le monde et puis qui nous émerveille à chaque instant.
Merci Timothée. Et puis Brian, entre-temps, on a reçu un appel justement pour une question sur les bulbes.
Et oui, c'est Nicole de Crémine qui nous a appelé et qui nous a posé cette question. Nous avons eu la chance de recevoir des bulbes de tulipes noires de Hollande. Est-ce que c'est une variété spéciale ? Est-ce qu'on peut la planter avec les autres ? Ou est-ce qu'il y a des spécificités ? Par exemple, est-ce qu'il faut la planter plutôt en pleine terre ou en pot ? Merci beaucoup.
Alors, c'est clair que les tulipes noires, donc c'est pas une couleur originelle des tulipes. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va dégénérer au fil du temps. Peut-être partir en mauve ou en rouge, ou alors tout simplement péricliter et puis ne plus donner de fleurs. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que le 99% des bulbes qu'on trouve viennent de Hollande. C'est vraiment le premier producteur mondial. Donc en fait, il n'y a pas de contre-indication à planter avec les autres tulipes, en pot, ou comme ça. C'est vraiment comme un bulbe classique. C'est juste avoir en tête que il va peut-être pas rester dans la durée ad aeternam.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin, et vous pouvez même poser vos questions à notre spécialiste. Nous sommes en compagnie de Timothée Grisel, paysagiste aux Verrières.
Et pour vous les poser ces questions, vous avez trois possibilités. La première, c'est par téléphone. Vous composez le 0900 70 20 20, et vous aurez la chance de parler en direct à notre spécialiste. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et vous aurez la chance de pouvoir joindre une photo. Puis troisième possibilité, c'est par SMS. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question et de votre nom. Et puis vous nous l'envoyez au 939.
Timothée, on a reçu une question de Damien de Vaumarcus qui nous dit « Bonjour, nous avons eu une belle récolte de patates douces. On aimerait savoir comment les conserver. » Alors il y a une petite photo avec cette question où on voit justement ces grosses patates encore en terre. Comment faire pour les conserver longtemps ?
Alors, ce qui est génial avec les patates douces, c'est que si elles sont bien conservées, on peut facilement les tenir 2 ans. Donc, j'en ai déjà mangé qui avaient qui avaient passé une année complète en cave. C'est comme une patate classique. Hein. Donc, c'est dans une cave au frais, à l'obscurité au frais. Si vous n'avez pas de cave, au frigo, ça va très bien. C'est vraiment un légume qui tient bien. Et puis, même si ce n'est pas des conditions idéales, il nous pardonne beaucoup de choses. Donc, pas de contre-indication à une bonne conservation.
Alors là, on voit sur la photo qu'elles sont un peu pleines de terre, ces patates douces. Est-ce qu'il faut les laver avant de les stocker?
Alors, moi, ce que je conseille, c'est quand on les arrache, de les laisser, de faire ça un jour où c'est ensoleillé, et puis, enfin, où il y a de la perspective
on
de soleil.
Espère.
Et puis, de les laisser en tout cas 24 heures sur la terre pour sécher au soleil. On dit que les arômes sont sublimés quand on laisse ces légumes posés sur la terre au soleil 24 heures. Et puis, ça permet en fait d'enlever les surplus de terre. Moi, j'irais pas trop brosser et frotter. Ça m'est déjà arrivé de faire pourrir toutes mes patates parce que j'avais voulu trop bien les nettoyer. Donc, c'est mieux de les laisser un peu brutes et d'enlever le surplus à la main. Puis après, au moment de les nettoyer au moment où on les cuisine.
Et puis, on a reçu une autre question, Timothée, pour vous. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut laisser nos courges dans notre potager?
Alors, il faut vraiment veiller au gel. On voit très bien sur le mot m'échappe, bref, la jonction entre la courge et la tige, si ça devient brun et jaune, ça veut dire que la courge, elle est mûre et puis que là, on peut sans autre la récolter, ça devient sec. Voilà. Le pédoncule devient sec, on peut sans autre la récolter à ce moment-là. Sinon, alors il faut laisser le plus longtemps possible tout en veillant au gel. Ça supporte un léger gel, mais il ne faut pas que ça soit trop long et répété. Donc, pour une conservation optimale, ramassez vos courges quand vous voyez que le pédoncule est sec.
Et puis, en ce moment, comme c'est très humide, est-ce qu'il serait judicieux de glisser une planche ou quelque chose dessous pour pas qu'elle soit tout le temps dans cette terre mouillée?
Alors, tant qu'elle est en croissance, en fait, vu qu'elles sont de toute façon tout le temps posées sur le sol, je ne vois pas de contre-indication à ce qu'elles restent posées à même le sol. L'idée de la planche ou de la brique, c'est plus pour essayer de les faire mûrir de tous les côtés, mais je ne crois pas que j'ai découvert que c'était moins bon d'un côté d'une courge que de l'autre.
Donc, c'est parce que vous l'avez laissé à vos enfants.
Voilà.
Timothée, on a reçu une autre question qui parle de compost. Aux portes de l'hiver, est-ce qu'il faut brasser le compost avant l'arrivée des températures froides?
Alors, moi, je trouve que c'est bien. Après, tout dépend de la taille du compost. Si on a un compost un petit peu plus volumineux, c'est génial parce que ça relance une chauffe et ça supprime un peu de surabondance d'humidité avant l'hiver qui, quand même, vient un peu surinonder notre compost avec toutes les précipitations. Mais dans tous les cas, on ne perd rien à trop brasser son compost parce que ça ramène de l'oxygène et puis ça réactive les processus de décomposition. Et ce qui est vraiment favorable. D'ailleurs, les grands composts, dans les grandes compostières, ils arrivent à faire un compost dans des temps records de 3 semaines, poursuivant lesquels, mais ils les brassent tous les jours. Donc, vous ne perdez rien à trop brasser votre compost.
7h, 8h, les jardinières.
Il est presque l'heure pour les jardinières de prendre congé. Mais avant de filer, dernière question pour vous, Timothée. Qu'est-ce qu'on fait en extérieur ces prochains jours?
Alors, il faut aller aux champis.
Il faut faire attention.
Voilà.
Comme on dit, tous les champignons sont comestibles, mais certains qu'une seule fois.
C'est ça. Non, mais oui. Non, mais après, au niveau du jardin, il ne faut pas hésiter à planter vos oignons et vos ails. C'est les meilleurs moments, je trouve, pour avoir des beaux oignons. Et puis après, il y a les semis d'épinards, de doucettes. On peut encore mettre des pak choy qu'on prendra en jeune pousse. Et puis, plantez vos bulbes, bien sûr. Et n'oubliez pas aussi de nettoyer vos vivaces, de rentrer vos géraniums et vos plantes méditerranéennes, même si c'est difficile de le faire, on a envie de prolonger l'été, mais des fois ça leur fait pas du bien de rester à des trop mauvaises conditions météo.
Et puis il y a les récoltes qui s'enchaînent, hein, les pommes, les coings. Est-ce que vous avez quelques conseils pour justement conserver ces fruits?
Alors, ça c'est clair qu'en cave, pas trop entassés les uns sur les autres, c'est le mieux. Si on a une bonne cave, c'est idéal. Après, c'est clair que quand on a des mauvaises conditions de stockage, alors autant transformer vos pommes et vos légumes, enfin vos fruits et vos légumes. Mais c'est clair que les pommes en cave se gardent très bien si on ne les entasse pas les unes sur les autres, de même que les coings et les poires.
Merci Timothée pour votre visite. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Timothée Grisel Paysage aux Verrières, dans le canton de Neuchâtel. Bon week-end et à bientôt chez les jardinières.
Merci, bon week-end à tout le monde.
Et puis la semaine prochaine, c'est Jordi González, horticulteur à Neuchâtel, qui sera notre invité pour poser vos questions. Mais n'attendez pas samedi prochain, on les attend. Par SMS, par exemple, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question, votre nom, et vous nous l'envoyez au 939. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo et votre question, hein, parce que juste la photo, c'est sympa, mais c'est bien s'il y a la question avec, via le formulaire disponible sur notre site. Bon week-end, Brian.
Un bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.